Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Jusqu'au déconfinement total, notre émission par ici des sorties n'a plus lieu d'être, mais la musique reste présente. Personnellement, je ne peux penser la période pascale sans Johann Sebastian Bach, celui que nos amis allemands appellent aussi le cinquième évangéliste. Bien sûr, il y a la Passion selon saint Matthieu et Saint Jean, que beaucoup d'entre vous ont probablement eu envie d'écouter au mois d'avril. Mais il y a une œuvre dont les non-pianistes font souvent le détour et pourtant elle constitue un monument de la musique. Donc avant de parler de Bach et de son époque, parce que j'ai envie de vous raconter la vie de Bach, parlons de l'œuvre que vous allez écouter sur plusieurs émissions. Le clavier bien tempéré, qui est composé de 24 préludes et autant de fugues dans tous les tons et demi-tons, aussi bien en suivant la tierce majeure do ré mi que la tierce mineure ré mi fa. Là, je cite Johann Sebastian Bach. Destiné, encore dixit Bach, à aider dans leur effort les jeunes musiciens avides d'apprendre et aussi à ménager un passe-temps de qualité pour ceux qui sont déjà d'habiles exécutants. Voilà déjà donc tout le programme, mais ça veut dire quoi exactement? Il y a des musiciens dans notre auditoire pour qui les quelques explications qui vont suivre n'apportent rien de nouveau, mais partant du principe que tout le monde a le droit de comprendre, merci d'être patient pendant quelques minutes. Alors, clavier, quand Bach parle de clavier, de quel clavier parle-t-il? Il s'agit bien sûr d'instruments à touches, tels le clavecin, le clavicorde, orgue et plus tard également le pianoforte. Si l'on considère que dans le premier livre, parce qu'il en a écrit deux quand même, hein, Bach, l'étendue reste limitée à trois octaves, et compte tenu quand même de l'absence totale d'indication de nuances et de dynamique, on peut considérer que Bach aura peut-être écrit surtout pour clavicorde. Le clavicorde était également son instrument de prédilection. Puis, bien tempéré, ça veut dire rien à voir avec le temps, hein. Mais disons que nos oreilles sont ainsi habituées que l'on aime entendre une octave parfaitement juste. Et également une franche différence entre la tierce majeure et la tierce mineure, et encore des franches dissonances entre les notes conjointes et les septièmes. Si nous considérons la musique cependant comme un cadeau de la nature, le jeu des harmoniques fait que d'octave en octave, l'intervalle entre deux tons voisins se modifie. Ce n'est pas bien grave tant qu'il s'agit de chants ou même d'un quatuor à cordes où les interprètes peuvent s'adapter en fonction de ce qu'ils entendent. Mais c'est une autre paire de manches pour les instruments à touches où on appuie sur une touche et on a une note. On ne peut rien y toucher, rien n'y tend à changer. Donc ce n'est pas si étonnant que ce sont justement les constructeurs d'orgues, de clavecins et autres claviers qui se soient mobilisés pour régler la question. Les premiers travaux datent du XVIe siècle, déjà donc, mais c'est avec la liberté de modulation dans la musique du XVIIe siècle que les travaux se sont accélérés, avec bientôt, et c'est bien humain, une lutte entre différentes théories. Curieusement, nous ignorons quelle méthode fut choisie par Johann Sebastian Bach. Alors, fions-nous simplement à ce que disait son deuxième fils, Carl Philipp Emanuel, en 1774, c'est-à-dire près de 25 ans après la mort de Johann Sebastian. Il disait, il répartissait en accordant son clavecin les intervalles d'une façon si régulière que toutes les tonalités sonnaient aussi bien et jolies. Voilà. Alors, il est temps d'ouvrir ce clavier bien tempéré. Nous y trouvons un certain nombre de préludes et de fugues. Sans devenir trop technique, disons simplement pour celles et ceux qui entendent aujourd'hui ces termes pour la première fois, prélude, c'est à l'origine la liberté, la bride laissée à la fantaisie. Préluder, c'est improviser. Les musiciens préludaient pour permettre de fixer la tonalité pour la suite. Et éventuellement pour laisser aux autres instruments le temps de s'accorder. Ah, l'orgue, c'est très clair. Puis Bach est venu. Bach nous a tout écrit, même les ornements, et c'est pour cela que l'on peut dire que depuis Bach, les musiciens classiques n'improvisent plus guère. Alors, fugue. Que veut dire fugue? Fugue dans la rigueur. Ouais, non. Fugue, c'est la rigueur dans une grande liberté. Contrairement au canon régulier, le thème choisi peut être arrangé en quelque sorte au gré de sa fantaisie par le biais des modulations, la diminution ou augmentation, le strette, le serré ou le renversement, par exemple. Le thème est fixe, repris par plusieurs fois, puis autour de ce thème se développe un jeu libre. Oh, c'est un peu compliqué, mais cette définition rappelle étrangement le jazz. Et ce n'est alors plus si étonnant que des fugues de Johann Sebastian Bach soient traitées si bien en jazz. Il n'y a pire pas qu'en jazz d'ailleurs. On rentrera dans le premier livre de Clavier bien tempéré, sur la pointe des pieds, avec le prélude, le premier prélude en do majeur, où Gounod a apposé son graffiti célèbre avec l'Ave Maria. Un rideau tissé d'harmonies brisées invoquant le luth, prélude déposé devant la fugue à suivre qui, dans un climat d'intériorité, avec ses 24 entrées du même thème, nous explique tout de suite ce qu'est le principe d'une fugue. Alors, écoutons le prélude et la fugue, les premiers en do majeur du premier livre de Clavier bien tempéré.
Thank you.
Vous venez d'entendre le premier prélude et fugue du premier livre du clavier bien tempéré en do majeur, joué par Swatoslaw Richter, donc vraiment un monument qu'on entendra d'ailleurs plus souvent encore dans ces émissions. Les deux tomes du clavier bien tempéré constituent en quelque sorte l'Ancien Testament de la musique. Peu de musique comble si fortement la raison et le cœur ensemble. Le technicien les démonte avec un plaisir renouvelé, mais le mélomane y trouve chaque jour un aliment à son existence. Ces pages qui se proposaient d'explorer le cercle de la tonalité jusqu'en ces terres inconnues ont fini par parcourir un atlas plus rare, celui des émotions humaines. Et ce qui est vrai en général dans la musique de Bach et de son époque l'est tout particulièrement du clavier bien tempéré. Autant d'interprètes, autant de versions différentes où tout peut changer. Le tempo, les nuances, les attaques, on le verra d'ailleurs dans les émissions qui vont suivre. Une œuvre est faite aussi des couches de sensibilité accumulées par le temps. Pensons que Mozart a pris le choc de ses préludes et fugues comme un poing dans la poitrine. Schumann et Chopin s'en sont nourris, les ont reflétés. Alors, après Richter, Gulda, Gould, allons-nous discuter du comment les interpréter, sur quel instrument? Allons-nous trancher ces liens qui les rattachent à nous et feindre de retrouver la sensibilité de l'époque qui les a vus naître, comme si nous pouvions être d'un coup, par un artifice de la volonté vierge, être vierge de la nôtre? Non. Cette musique permet à chacun d'y puiser selon sa mesure, dans la force des textes, dans leur physionomie, leur contenu mélodique et harmonique, leur écriture instrumentale, autant de petits indices guère assurés, mais bons à prendre. De toute manière, on le sait bien, un interprète inspiré se fera tout pardonner. Et c'est ma façon de penser. Chacun peut jouer le clavier bien tempéré et y trouver son bonheur. Dans les enregistrements que nous vous ferons entendre, nous nous limiterons à Richter, Gulda et Gould. On essaye de toute façon. Alors, écoutons maintenant un prélude sous forme de mouvement perpétuel, comme disait Bach, une étude pour que les mains apprennent à évoluer bien ensemble, c'est joliment dit, suivi d'une fugue déployant un thème plein de naïveté et de pureté qui semble emprunté à un poème pour se terminer dans une force exclamatoire. Ce sont les préludes et la fugue en ut mineur, également par Swatoslaw Richter.
Thank you.
Après l'écoute du prélude et fugue en ut mineur pour Svatoslav Richter, nous continuons notre exploration du clavier bien tempéré et de la vie de Johann Sebastian Bach. Alors, pour parler d'abord un peu de l'Allemagne, que représentait l'Allemagne à l'époque de Johann Sebastian Bach? Pensons un peu à l'univers dans lequel Johann Sebastian Bach est né en 1685, c'est-à-dire 37 ans après les traités de Westphalie. L'Allemagne s'est à peine remise d'une guerre de 30 ans, affreusement meurtrier, que les puissances européennes s'étaient livrées sur son territoire de 1618 à 1648. Le Saint-Empire avait été dévasté. Certains États, notamment la belle Thuringe de Bach, avaient perdu plus de 50% de leur population. La culture allemande elle-même était presque anéantie après 30 ans de guerre, c'est normal. Les rares villes épargnées travaillaient à sa renaissance et prenaient une importance considérable, surtout Hambourg, dans le nord. Mais l'Allemagne n'existait à peu près plus. Dans de nombreux États, la reconstruction se poursuivra jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Il faut bien réaliser tout ça. La guerre de 30 ans, une guerre de religion d'abord, qui opposait les princes protestants allemands aux Habsbourg catholiques d'Autriche et d'Espagne. Une guerre qui a dégénéré en conflit européen ensuite. Le souvenir des massacres, villes en feu, cultures saccagées, famines et épidémies a hanté plusieurs générations allemandes comme un cauchemar collectif. Et Bach est né en plein milieu de ça, en 1685, c'est-à-dire à peine 40 ans après la fin de la guerre. À la fin du XVIIe siècle, l'Allemagne est en retard sur ses voisins européens et vit non seulement dans le souvenir terrifiant de la guerre, mais sous la menace également de nouveaux conflits. Rappelons que les Turcs ne sont pas loin. Ils occupent la Hongrie jusqu'en 1686. Et ont assiégé Vienne, capitale de l'Empire libéré par la cavalerie polonaise. C'est un événement d'ailleurs dont il nous reste quelque chose. Ça n'a rien à voir avec Bach, mais notre croissant dominical que les Viennois avaient alors fabriqué pour fêter la victoire sur les Turcs. Seule la musique a échappé à l'anéantissement et à préserver la continuité de ses traditions depuis le XVIe siècle. Sans doute a-t-elle soutenu les populations meurtries, qui pouvaient quand même se réunir dans les églises qui étaient le lieu de culte et de musique. Les traités de Westphalie, succès de la diplomatie française, ont consacré le morcellement de l'Empire, la fin de l'ambition hégémonique des Habsbourg, la prééminence, on peut dire, des princes électeurs, et ils ont institué une charte spirituelle fondée sur le principe « cuius regio eius religio », à chaque royaume sa religion. Ils ont favorisé le développement d'une autre Allemagne, celle des philosophes, des poètes et des musiciens. Les drames suscités par les guerres de religion ont inspiré aux Allemands plus de sagesse qu'à leurs voisins. La tolérance religieuse est devenue la fierté de l'Allemagne, même lorsque les débats théologiques font rage. On peut voir les électeurs de Saxe devenir catholiques pour accéder au trône de Pologne, tandis que la population reste luthérienne. Et le très luthérien Bach n'hésitera pas à entrer au service d'un calviniste à Köthen, ça ne posait aucun problème. Pourtant, religion et famille sont jusqu'en 1750 les deux pôles de la ville, de la vie publique et de la vie privée allemande. Donc ça trace quand même une société bien différente de ce qu'on a pu imaginer. Mais retournons à la musique. Le prélude en ut dièse majeur est un nouveau mouvement perpétuel à deux voix, où les joyeuses doubles croches scintillent en dialogue à la main gauche, la main droite aussi, jusqu'à l'accord final. La fugue à trois voix installe au contraire un climat pastoral. Le contre-sujet brode comme un flutio. Puis vient un passage médian très beau avec un dialogue paisible entre soprano et basse. Alors écoutons le prélude et la fugue en U dièse majeur, de nouveau par Swatoslaw Richter.